Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint,
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. C'est un livre qui raconte comment une cigarette met le feu aux poudres, comment quelques bouffées de tabac vont faire exploser les relations entre une adolescente et sa famille, à commencer par sa mère dont la fureur est aussi le marqueur d'une violence familiale, sociétale, patriarcale. C'est surtout un livre écrit d'une plume vive, acérée, brillante, au service d'un texte percutant et libératoire qui paraît sous le titre « Je me regarderai dans les yeux » aux éditions Bayard et dont l'autrice est l'une des invitées du festival Livre Paris qui se déroule actuellement au Grand Palais. Bonjour Rim Battal.
Bonjour.
Dans votre roman, on entend la voix d'une jeune fille de 17 ans au Maroc qui porte le même nom que vous. Mais au-delà de la ressemblance entre la fiction et la réalité, qu'est-ce qui fait que l'adulte que vous êtes désormais a voulu raconter l'humiliation d'une adolescente par ses proches qui, sous prétexte qu'elle avait fumé, a déclenché la colère homérique de son entourage? Pourquoi aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, parce que la fiction a sa propre temporalité. L'écriture exige le temps long de la réflexion, de l'analyse et la distance nécessaire aussi par rapport à, au vécu parfois, parce que ce livre n'est pas à proprement dire autobiographique, mais il s'inspire d'un événement qui m'est arrivé à titre personnel. Et comme vous le disiez dans votre très belle et très généreuse introduction, c'est un événement qui explose et les relations familiales, mais explose aussi toutes les certitudes de cette jeune femme qui est donc le personnage principal et ma narratrice et qui lui permet donc de questionner à partir de ce fait, de cet événement-là qui est assez traumatique, qui lui permet de questionner le cadre dans lequel elle vit et toutes ces injonctions en fait qu'elle a prises pour acquises et qui lui permet au final d'identifier ses propres désirs. Et j'ai trouvé que ce chemin-là était assez intéressant à rendre quelque part à travers la littérature et un roman particulièrement.
En d'autres termes, il y a eu une telle déflagration qu'il y a eu comme une bombe qui explosait avec tous les petits morceaux éparpillés. Il a fallu du temps pour reprendre un à un ces morceaux et constituer finalement cette toile de fond.
Exactement, enlever aussi un à un les petits morceaux qui se sont incrustés dans la chair et les guérir, les blessures, pour pouvoir les voir et se regarder dans les yeux, comme le titre l'indique. Parce qu'en fait, je pense que quand on écrit sur le vif, on peut commettre énormément d'erreurs parce qu'on écrit avec la colère. Et je pense que c'est important d'écrire avec la colère, mais il faut aussi s'en méfier parce que c'est un feu qui peut produire de très belles choses, qui permet de forger, mais qui peut nous brûler aussi et qui peut causer des dégâts dont on se passerait bien. Parce que l'idée aussi derrière ce livre-là, ce n'est pas... Et l'écriture de manière générale, je pense, enfin, pour ma part, ce n'est pas une idée de vengeance, en fait, qui est derrière cet élan premier, mais plutôt l'envie, la nécessité de comprendre. Et quand je dis comprendre, c'est pas seulement comprendre un événement, mais comprendre aussi tous les protagonistes pour essayer de comprendre la généalogie de cette violence, en fait.
Donc, à Casablanca, dans un milieu éduqué, de classe moyenne, on est dans les années 2000-2010, la jeune fille qui s'est fait surprendre en train de fumer à la fenêtre de sa chambre se voit non seulement hurler dessus par sa mère, mais frappée violemment au point que son petit frère doit intervenir. Mais la raclée est telle que Rim s'enfuit et les heures, les jours qui suivent vont marquer la fin de ses illusions, puisqu'on lui demande, pour être pardonné, de faire un test de virginité. Pourquoi cet ultimatum ?
Alors l'ultimatum, et comme j'essaye de l'expliquer, en tout cas dans le livre, c'est parce que, comme la jeune fille part, donc on peut lui imputer toutes sortes de torts et de fautes, entre guillemets. Donc ça commence par une cigarette, et puis la mini-transgression qui est ce geste-là de fumer une cigarette quand on est adolescente ou adolescent, grossit comme par un effet boule de neige, et on arrive jusqu'à questionner la moralité de cette jeune fille, etc. Après, Je pense qu'il s'agit là simplement d'un prétexte, encore une fois, pour dominer les corps des jeunes filles, pour les remettre à leur place. C'est une excuse pour aller fouiller dans leur intimité et les soumettre. Ici, dans cette histoire-là, il s'agit d'une cigarette qui est l'acte premier de transgression, qui débouche sur cette demande...
Disproportionnée.
Exactement, disproportionnée, ubuesque finalement, parce que si on ne lit pas le livre, le pitch paraît vraiment incroyable. Mais c'est vraiment tout à fait logique dans la logique de ces personnes qui vont imposer cet ultimatum. Et quand on regarde un peu avec des lunettes un peu déconstruites et lucides le monde qui nous entoure, souvent, on retrouve des jeunes filles qui se retrouvent à faire des pirouettes et des acrobaties pas possibles pour négocier des petites marges de liberté, à qui on fait des demandes toutes aussi absurdes les unes que les autres afin de les remettre dans leurs petites cases, de les remettre dans des petites boîtes. Ça peut être pour des prétextes religieux, de traditionnels, des lois qui sont faites par des humains. Donc la loi aussi, c'est un outil qu'on peut manipuler comme on le souhaite pour caser les gens, pour les remettre à leur place et pour les oppresser.
Et pourtant, à vous lire Rimbata, il y a quand même quelque chose d'étonnant de la part de cette mère qui est émancipée et qui a résisté aux portes du voile et à d'autres injonctions sociales. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il s'agit de quelque chose d'assez banal qu'on retrouve souvent chez certaines femmes qui, malgré le fait qu'elles aient des fortes personnalités, qu'elles arrivent à s'affirmer sur certains plans, sur certains registres, continuent tout de même de reproduire des violences patriarcales qu'elles n'ont pas forcément identifiées comme telles sur la génération suivante, pour plusieurs raisons. Soit parce qu'elles ne les ont justement pas conscientisées encore, ou parce que c'est toujours un peu déstabilisant de voir la génération suivante prendre des libertés qu'on ne s'est pas accordées à soi. C'est très compliqué de voir la transgression. En fait, on voit plus la transgression chez l'autre ou chez soi, parce que cette mère, elle fait aussi partie d'une génération de femmes qui se sont baignées en bikini à la plage alors que leur mère portait le niqab, qui n'est pas vraiment la burqa, c'est encore autre chose. C'est vraiment la djellaba avec la petite capuche sur la tête qu'on retrouvait plus chez la bourgeoisie, qui était signe d'élégance et de vertu. Eh bien, on passe de la djellaba qui couvre la totalité du corps et cette pudeur qui est mise sur un piédestal à on est en bikini et on fait des concours de beauté à Tahiti Beach sur la corniche de Casablanca. Chaque génération essaye de négocier des petites marges de liberté, des petites bulles pour respirer et les scruter par celles d'avant. Et j'espère en tout cas avec ce livre qu'il pourra favoriser le dialogue entre les mères et leurs filles, essayer de construire un pont entre les générations pour que à la fois les mères comprennent aussi les conséquences et les répercussions de cette violence-là et que les jeunes filles puissent comprendre d'où viennent leurs mères, ce qu'elles ont subi elles-mêmes, quel est leur parcours de libération à elles aussi.
Alors c'est là où on en arrive à un point capital de votre récit, Rime Batal, puisque vous procédez par cercle concentrique, c'est-à-dire d'un événement vraiment intime, familial, vous élargissez au fur et à mesure l'analyse et là on est sur le point sociétal, parce que cette jeune fille qui pense trouver refuge auprès de sa tante, qui elle aussi se présente comme une femme libre, eh bien, elle est trahie par cette dernière qui vraiment va l'obliger à passer ce test de virginité. Et là, c'est d'une violence physique et psychologique terrible, d'autant plus que la gynécologue ne fait rien pour adoucir l'examen. Donc même la solidarité des femmes est une illusion.
Alors, en fait, tout le monde la pousse. Elle se retrouve sur une pente glissante qui la mène vers ce certificat. Parce qu'à la fin, elle a presque décidé elle-même d'accepter de le faire. Mais ce n'était pas une décision libre. Elle n'avait pas forcément le choix. Elle a été contrainte, mais par la pression de la société, de la famille, dans la famille la plus élargie possible. Et malheureusement, la solidarité entre les femmes n'est pas aussi étendue qu'elle devrait, qu'on le souhaiterait. Tout comme la sororité, malheureusement, ce sont des choses qui se construisent, qu'on doit faire de manière consciente parce qu'on n'a pas encore aujourd'hui les espaces qui la font naître naturellement. Je vais comparer par exemple avec la solidarité chez les hommes qui est présente et qui est très forte et fortifiée par des grandes manifestations, comme par exemple quand on va dans un stade de foot et on voit tous ces hommes qui crient ensemble et qui sont liés ensemble par le fait d'encourager les mêmes équipes, de hurler en même temps et se sentir investi de cette énergie en fait qui les prend tous aux tripes, et bien chez les femmes, on n'a pas forcément ça, on n'a pas forcément des lieux où on peut crier, hurler de joie tout ensemble, à part aujourd'hui de plus en plus peut-être les manifestations, mais c'est encore une autre dynamique. Et donc les lieux où se construit la sororité sont très très rares. Les femmes sont, par le patriarcat, mises tout le temps en compétition, hélas, et elles ont peur les unes des autres. On est toujours en conflit sur des questions de beauté, de compétences, de place dans la société. Et celles qui arrivent à acquérir un statut un peu plus supérieur éventuellement aux autres ne tend pas forcément la main. Et donc ces tantes-là qui arrivent à s'en sortir finalement et à avoir une vie de femme d'affaires qui est à peu près respectée dans son milieu, dans un milieu d'hommes, eh bien, elles ne protègent pas sa nièce parce qu'elle est dans une compétition avec la mère et qu'elle utilise sa nièce pour régler des comptes.
Et de façon encore plus générale, c'est aussi le tabou autour de la sexualité féminine que vous questionnez ici, que le corps des femmes finalement ne leur appartient pas et que c'est une question de tradition. Cela dit, sous votre plume, il y a deux poids, deux mesures. Il y a bien deux sociétés marocaines, l'une qui s'appuie sur la religion, la tradition, et l'autre qui a un double discours, qui ment pour survivre. Il y a donc une culture du mensonge. Mais là encore, il faut nuancer, parce que c'est tentant de souscrire au mensonge, puisque ça achète la paix. Et c'est précieux, la paix, n'est-ce pas ?
Exactement. En fait, on l'appelle mensonge, mais ça relève plus de la stratégie de survie au final. Parce qu'on a toutes et tous besoin de liberté. On a toutes et tous besoin d'être en adéquation avec soi, avec ses envies, avec sa vision du monde. Mais est-ce que c'est possible de l'exprimer haut et fort sans entrer en conflit avec les siens, avec les êtres qu'on aime, qui constituent aussi notre système de soutien ? Si on s'en écarte, on est seul. On fait quoi, en fait ? La vie, elle est très, très dure et très violente et on a besoin des siens. Et les siens, les nôtres ont besoin de nous aussi. Donc, je le raconte dans le livre, tous les personnages, finalement, comme le découvre mon héroïne, ont leur petite stratégie et essayent de les lui transmettre, en fait, également, pour pouvoir négocier avec tous ces interdits. Après, vous disiez aussi qu'il y a deux sociétés de poids, de mesure, mais ce n'est pas forcément le cas. Il ne s'agit pas de deux sociétés distinctes. Ce sont exactement les mêmes personnes qui, dans le même temps, s'appuient sur la religion, sur les traditions, respectent justement les us et coutumes, et dans le même temps, mentent quand ça les arrange pour pouvoir respirer tout en respectant la loi du groupe. Et c'est ça qui est fascinant et c'est ça qui est compliqué à intégrer. Ça va pas de soi en fait. C'est vraiment, on éduque un peu les jeunes à ce bain et puis il y en a qui arrivent très bien à naviguer au milieu de tout cela et il y en a d'autres qui explose en vol, j'ai envie de dire. Mais ma narratrice, justement, elle arrive à accepter finalement de... Elle recule le moment de sa libération, parce qu'elle accepte de faire ce certificat, elle accepte de mentir un peu quelque part.
Elle ment absolument même.
Oui, elle est très forte. Mais ensuite, elle arrive quand même par la suite à s'émanciper de tout cela, justement parce qu'elle a envie d'être fidèle à ses propres principes à elle. Et quand elle se retrouve à les égratigner, c'est là que... Il arrive cet épilogue, mais je ne veux pas déflorer le récit.
Alors, contre le mensonge, contre le silence, il y a une arme, celle des mots, la poésie, la littérature. C'est ce dont nous allons parler avec vous, Rim Battal, dans un instant, en continuant de feuilleter votre roman. En attendant, on fait une pause musicale. Quel titre aimeriez-vous qu'on écoute maintenant sur l'antenne ?
Alors, c'est un titre qui s'appelle « Taratatatat » et j'aime beaucoup les paroles, en fait. C'est en arabe, je ne sais pas si tout le monde comprendra, mais qui parle justement de toutes ces injonctions que vivent les jeunes filles, qui les oppressent, qui les contraignent. Et ça me rappelle beaucoup le personnage de mon livre.
Alors, on l'écoute ensemble.
ينفعش اكون قاعده براحتي لو ضربني فعشان مصلحتي لو ضربني ما عادي ما وصاحبي لو ضربني عشان ما بلاش نتكلم غير في الماضي لو حلوه في مخي ده اكيد فاضي ما غنيش غير لو بصوت واطي ما غنيش غير لازم اقلب فرشه لو بوز لازم اسمع كلام بيموت ما فكرش غير في اني اتجوز ما فكرش غير باخد اذن على لبسي بصوره باخد قلم ومن عيني نافوره انا مجرد ته مربوطه انا مجرد بتفكر مالك فاكر نفسك في السليم والامان مش حاسه بيه وانت مالك عارف بتفكرني بمين انت بتفكرني بيه بتفكرني بوز ان اطلب حاجه تقول نسيت اكون متاحه ليك اكون بوفيه واربي عيال واكون ديكور في بيت على المطبخ يلا عشان اكون بزن لو كنت باكد استحمل واسكت ابقى رخمه وبقفل اطلع اللي فيا ابقى بنكد اقول لا ابقى ما بفهمش غير لو تشرح لي ما بختارش غير لو تسمح لي ما بنفعش لو ماما مش بترتاح ليك خنا عادي اكون ماليش دار غير عادي عايش معاك مصدقش فيك تخني تقولي ده ما يعبكيش لو خنتك انا بقى بتفكر ده
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivaine Rim Batal qui vient de publier une fiction sous le titre « Je me regarderai dans les yeux » aux éditions Bayard, où il est question du passage de l'adolescence à l'âge adulte à travers l'histoire d'une jeune Marocaine dont le féminisme va se révéler à l'épreuve d'un test de virginité imposé par sa mère. Un moment intime qui pourtant dit le fonctionnement d'un monde où l'on n'est plus protégé par ses parents mais instrumentalisé par le collectif. Reste la rébellion, l'affranchissement qui passe sans doute par la création artistique. Est-ce que vous avez commencé à écrire Rim Batal pour exprimer cette révolte ?
Alors l'écriture a précédé la révolte. J'écrivais depuis toute petite. En fait, j'ai toujours adoré les mots. C'est quelque chose qui me fascine. Le fait qu'un mot puisse sonner comme un autre et dire complètement autre chose. Le fait qu'un mot puisse contenir plusieurs sens à la fois. Le fait qu'on puisse les agencer et que la phrase fasse une musique propre à la fois à travers le sens qu'elle va déployer, mais aussi grâce au son qui s'entrechoque les différentes syllabes. J'ai toujours trouvé ça vraiment fascinant.
Et en quelle langue ?
J'ai commencé par écrire en arabe d'abord, et puis je suis passée au français presque en même temps, à vrai dire. J'ai commencé à écrire en même temps que j'ai appris à écrire en réalité.
À lire, vous voulez dire ?
À lire et à écrire, oui, ouais. Je veux dire, j'ai appris à écrire, enfin la graphie. Et c'est là que j'ai commencé à jouer avec les mots. Et je me souviens, quand j'étais toute petite, tous les soirs avant de m'endormir, j'essayais de me répéter les nouveaux mots que j'ai appris. Et c'était à la fois en français et en arabe, avant d'apprendre à écrire. Et ensuite, j'ai voulu justement les utiliser pour faire comme ce que je croisais dans les livres. Avec des mots, on peut construire des histoires, on peut construire des univers, soit imaginaires, soit se réapproprier la réalité, la faire sienne et prendre finalement du pouvoir sur ce qu'on vit.
Donc d'abord, happé par la beauté des langues, l'esthétisme, mais à un moment, est-ce que cette langue, ces mots, vous permettent aussi d'exprimer des choses sur le papier que vous n'avez pas la possibilité d'exprimer dans la vie.
C'est très
marrant. Dans cette colère, justement.
En effet, parce qu'en fait, pendant longtemps, j'écrivais et je me disais, c'est beau ce que je lis dans les livres, mais moi, je n'ai rien à raconter. Parce que justement, j'écrivais avant la colère. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de la colère comme un vrai moteur. Et c'est plus tard, en devenant jeune adulte, etc., que je sentais que j'avais de plus en plus de matière pour fomenter des récits, des poèmes d'abord. Et c'est ça qui m'a poussée à écrire de plus en plus, parce que j'avais de plus en plus de matière première à sculpter, finalement. Et en effet, à la fois, lire comme écrire fait du bien. Ça, c'est vraiment indéniable, à la fois à la personne qui écrit et aux personnes qui lisent. Moi, en tant que lectrice, quand je lis des choses, parfois même très simples, mais qui résonnent avec ce que je vis, avec ce que je ressens, et une autre personne arrive à mettre des mots tellement beaux et évidents, et bien je me dis, ah, mais c'est ça Et là, je comprends. C'est ça qui est beau aussi avec l'écriture et la lecture. Et donc, quand j'écris moi-même, j'espère que des personnes vont aussi me lire en se disant ben, « En fait, voilà, c'est ça que je ressens. C'est ça qui m'est arrivé. C'est ça qui me traverse présentement. Maintenant que je l'ai compris, je suis moins en colère. »
Ce qui est intéressant, c'est que je vous regarde, Rim Battal, je vous écoute, il y a une forme de douceur, il y a quelque chose de très fluide, de très posé, de très sincère, c'est vrai. Mais dans le texte, il y a quelque chose de beaucoup plus
vénère.
Oui, plus vénère, plus rude, plus, non pas agressif, mais en tout cas, vous vous servez de la langue aussi comme un scalpel et vous n'y allez pas par quatre chemins.
Non mais ça c'est sûr, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs ça étonne souvent les personnes qui me lisent et puis qui viennent me voir en performance ou en lecture, le décalage entre ce que je renvoie avec ma voix, mon corps, je suis une personne toute petite, toute frêle, et avec ce que je dis, ce que j'écris dans la langue, parce que j'ai ce rapport peut-être un peu belliqueux aussi à la vie, parce qu'il y a toujours ce refus en moi d'accepter des choses si je ne les comprends pas profondément. L'écriture me permet de comprendre, mais tant que je n'ai pas résolu moi-même avec des mots ce que je vois, je perçois, je vis de la réalité, je ne peux pas accepter des règles qui me tombent du ciel simplement parce qu'une personne les a décrétées. Et donc c'est ça qui fait qu'il y a toujours ce choc ou cette violence-là. On m'a souvent dit aussi que mes textes étaient violents, crus, provocateurs. Et à chaque fois, je regarde la personne et je me dis, mais en fait, si tu t'es senti provoqué, c'est que chez toi, il y a quelque chose à résoudre également. La provocation te concerne. Ce n'est pas mon intention. Quand j'écris, je n'ai pas l'intention de provoquer, à part peut-être la réflexion, évidemment, susciter l'émotion, parce que c'est ça qui nous permet de construire des ponts, de construire notre empathie aussi vis-à-vis des autres, et d'investir leur chair grâce au récit, grâce au langage sensible qu'est la poésie aussi. Mais il n'y a aucune volonté de provoquer, en fait. C'est fait avec beaucoup de douceur. Mais voilà, je pense que si on se sent violenté, c'est qu'il y a quelque chose en nous qu'on doit résoudre également.
Alors moi, je ne me suis pas du tout sentie violentée. Au contraire, je me suis retrouvée à 17 ans avec cette même énergie, cette même énervement contre l'arbitraire et cette envie d'en découdre et cette envie d'une liberté et qu'on nous laisse tranquille. Alors c'est vrai, Rim Battal, vous l'avez dit, vous êtes l'autrice de plusieurs recueils de poèmes, 7 à ce jour. Ici, il s'agit de votre premier roman, mais n'oublions pas votre travail d'artiste également. Vous êtes photographe, et d'ailleurs ici, il y a une scène spectaculaire avec un drap nuptial qui est taché et qui renvoie bien aux spectatrices et aux spectateurs cette question de l'obligation de montrer, après la nuit de noces, la preuve de la virginité de la mariée. Donc l'art appuie là où ça fait mal, mais l'écriture permet de pallier le manque de mots, de dialogue entre la mère et la fille, parce que ici vous mettez noir sur blanc le fait que la violence de cette mère est le résultat d'une violence plus grande, ce qui sous-entend que ce qui n'est pas énoncé ne se conçoit pas. Donc il faut passer par l'art aussi pour avoir ce dialogue qui n'existe pas dans la vie quotidienne, et ici, entre une mère et une fille, par exemple.
Alors, je vais revenir juste rapidement sur cette histoire de drap, parce que cette coutume est vraiment fascinante à plusieurs égards. En effet, c'est le drap nuptial. Moi, j'avais participé à l'inauguration du premier musée d'art moderne et contemporain de Rabat. Et en effet, j'avais exposé un drap nuptial brodé et taché. Et en fait, le fait de le mettre dans le livre, c'est parce qu'il représente et incarne tout le paradoxe entre l'intime. Et il n'y a pas plus intime en fait que la nuit de noces. En fait, c'est la première fois où on va avoir un rapport sexuel avec la personne avec laquelle on a choisi de passer éventuellement sa vie, la première fois que notre corps caché, préservé, va se retrouver nu et qu'on va accepter qu'il soit touché, et sans jamais avoir parlé de sexualité. Et soudain, on va sortir la preuve qu'il y a eu rapport sexuel, ce qui est proprement hallucinant. On passe de quelque chose d'extrêmement intime à quelque chose de public. Soudain, cette sexualité-là, elle doit être publique, prouvée. Voici, il y a eu acte sexuel. Regardez, voici la preuve.
Pour vous, c'est choquant.
Pour moi, c'est très, très choquant et c'est très drôle aussi en même temps. Enfin, ce serait très drôle si ça n'était pas violent. Mais c'est là où l'intime devient politique. C'est tout ce paradoxe entre le caché et ce qu'on va mettre en avant, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire. C'est pour ça que là, cette pièce-là s'appelle « Parfois je mens, parfois je dis la vérité » également. Donc, il y a tout un jeu aussi sur le mensonge et la vérité. Et voilà, ce drap est une surface de projection incroyable d'énormément d'idées, de fantasmes.
C'est surtout qu'à la vision de ce drap nuptial, la mère comprend tout de suite tout ce que sa fille n'a pas eu le temps de lui dire. Et là, elle est renvoyée aussi à sa propre impasse d'une certaine façon.
Exactement, parce qu'elle n'arrive même pas à le commenter. Ça lui ôte les mots. Ouais. Sa fille lui passe un message sans mots et elle se retrouve totalement muette parce qu'elle n'arrive même pas à en vouloir à sa fille au final.
Mais ensuite, les mots peuvent permettre justement ce dialogue qui n'existe pas dans la vie réelle, comme je le disais.
Tout à fait. Parce que soudain, on réalise. Soudain, on comprend. Et je pense que la vision de ce drap exposé par la mère a dû être une déflagration immense dans tout ce qu'elle a accepté elle-même comme pratique oppressive, comme pratique violente dans son propre corps.
Est-ce que votre roman a été lu par votre entourage, Rim Bhatal ?
Alors, je ne sais pas du tout. Pour l'instant, personne ne m'en a parlé. Et je suis curieuse d'avoir leur avis. Au début, je me disais, bon, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'en fait, il y a quand même un énorme écart entre la réalité, les vraies personnes et les personnages, justement, qui sont des personnages, et la fiction qui est de la fiction. Mais je serais curieuse de voir ce que ça peut produire comme effet chez elles et eux. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu de retour.
Très important aussi la transmission, justement puisque vous interrogez la génération de nos mères. Est-ce que vous, le fait, Rim Bhatal, d'être devenue mère à votre tour, a eu un impact sur vous et sur l'éducation de vos enfants ?
Oui, énormément. Moi, j'ai...
Alors énormément dans quel sens ? C'est très intéressant parce que...
J'ai muté.
Oui, et donc comment ?
Alors, déjà, ça m'a permis de comprendre nos mères. Beaucoup mieux, en fait. Et ça a été vraiment comme une épiphanie, à vrai dire. Bon, j'utilise un terme religieux, mais ça a été presque ça, en fait.
Une révélation,
et
en tout cas.
Une révélation, exactement. À la fois dans ce que leur corps a subi comme changements radicaux. C'est la question de la peur, en fait, que j'ai découverte en devenant maman. Je n'avais pas vraiment peur avant. Pour moi, c'est la vie, et puis il peut y avoir des accidents, et puis voilà, quoi. Et en fait, en devenant mère, je découvre la peur, parce que j'ai peur pour mes filles. Du coup, je comprends aussi les mères qui empêchent leurs filles de sortir éventuellement. Mais ça me donne plus envie de me battre, en fait, pour que le monde soit plus doux, plus clément, que les rues soient plus accueillantes pour nos filles et plus sécurisées, pour que mes filles puissent circuler, puissent se sentir libres, puissent s'habiller comme elles le souhaitent, puissent voyager là où elles le souhaitent sans se sentir en danger, qu'elles puissent marcher dans la rue la nuit et vaquer à leurs réflexions et non pas serrer leurs clés dans leur poche et presser le pas et se faire accompagner par des hommes, c'est absurde. Donc ça m'a fait changer dans ce sens-là.
Oui, tout en restant fidèle à vos convictions, rester indépendante. C'est ce que vous transmettez aussi à vos enfants. Merci beaucoup, Rim Bhatal.
Merci beaucoup, chère Catherine.
Je rappelle que vous êtes l'une des invitées du Festival Livre Paris qui se tient jusqu'à dimanche au Grand Palais, où vous allez participer à plusieurs débats et puis signer vos livres, dont ce dernier, « Je me regarderai dans les yeux », votre premier roman publié aux éditions Bayard. Merci encore.
Merci.
Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.
Et à suivre dans quelques minutes sur RFI, le magazine C'est pas du vent. Avec vous, Anne-Cécile Bras, bonjour. Quel est votre programme aujourd'hui ?
Bonjour Catherine, bonjour à tous. Nous parlerons du pétrole, du gaz et du charbon, car 80% de l'énergie mondiale provient encore de ces énergies fossiles. Allons-nous réussir à nous en désintoxiquer ? C'est compliqué avec l'administration Trump, mais aussi en termes d'emploi, comme vous le découvrirez avec notre reportage en Écosse.
Merci Anne-Cécile, on vous retrouve donc tout de suite après le journal sur RFI.